Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Les prophéties peuvent nous troubler, peuvent nous inquiéter et peuvent même nous effrayer. Quand nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 24 ou Luc chapitre 21, où il est question de guerre, de bruit de guerre, de famine et des tremblements de terre, ceci peut nous effrayer. L'avantage que nous avons en tant que chrétiens dans l'Église, c'est que nous les connaissons, les prophéties, ces prophéties. Nous savons que d'une part, l'homme ne connaît pas le chemin de la paix, et d'autre part, que Satan est le dieu de ce monde, et que Satan a aveuglé ce monde. Mais il y a aussi des prophéties encourageantes. Nous voyons par exemple dans Apocalypse que Dieu protège son Église. Ces détails nous sont donnés dans Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons regarder, nous allons examiner une prophétie que le Christ a prononcée juste avant sa crucifixion. Juste avant sa crucifixion, quand il allait souffrir une mort atroce et douloureuse à cause de nos péchés. Le Christ avait, bien sûr, ses yeux sur le plan de Dieu. À ce moment charnière dans ce plan, mais le Christ avait aussi ses yeux sur notre avenir, sur notre devenir, et ce qu'il allait faire pour ses disciples et pour nous. Cette prophétie se trouve dans Jean chapitre 14 et le verset 2 et 3. Jean chapitre 14 et le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une prophétie qui est très encourageante. Dans d'autres versions, ce passage est traduit de la façon suivante. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et ce passage dans Jean 14 est compris par beaucoup comme quoi la maison de mon Père se réfère au ciel. Et que si on est un bon chrétien, on va au ciel quand on meurt. Par voie de conséquence, le Christ prépare une demeure dans la maison. Donc, comme les gens comprennent, le Christ prépare une demeure dans la maison de son Père. Et là, les gens vont passer l'éternité dans les demeures, dans des demeures au ciel. Dieu dit autrement dans sa parole. La mort, d'après la Bible, la mort est comparée à un sommeil. Et à cet égard, il y a un passage intéressant et qui se trouve dans Daniel chapitre 12 et le verset 1. Daniel chapitre 12, verset 1, où nous voyons cette comparaison. Daniel chapitre 12 et le verset 1, nous lisons ceci. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, on parle ici d'une époque future, on parle d'une résurrection. Verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. La Bible parle de dormir, de se réveiller. C'est ce qui se passe une fois qu'on a dormi, on se réveille. Je reprends le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, c'est donc l'avenir, c'est futur. et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Le Christ aussi, quand Lazare était mort, il a dit à propos de Lazare, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Il était mort à ce moment-là, et le Christ parlait de le réveiller. Donc, quand nous mourons, la Bible la compare à un sommeil. Et à un moment donné, nous dormons, et à un moment donné, nous allons nous réveiller. Certains vont se réveiller à la vie éternelle, d'autres vont se réveiller à l'opprobre, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et en plus, la Bible parle très clairement d'une résurrection à la vie physique dans Ézéchiel chapitre 37. Mais nous n'allons pas au ciel quand nous mourons. C'est le premier point qu'on peut établir, qu'il faut souligner. Nous n'allons pas au ciel quand nous mourons. C'est comme un sommeil, nous dormons et il va y avoir une résurrection future. Une résurrection future pour toute l'humanité, d'après le plan de Dieu. Alors l'intention de Jésus, du Christ, sa conclusion si vous voulez, on va commencer donc avec ce qui est clair dans la Bible. Et je reprends donc le verset Jean chapitre 14, toujours. Je reprends le verset 3. Jean chapitre 14, vers le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il parle là aussi d'une époque future. Une époque future, je reviendrai, le Christ va revenir sur la terre. Qui plus est, le Christ va revenir à Jérusalem. Le Christ a promis qu'il reviendra. C'est ce que nous avons regardé pendant la fête des trompettes. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je m'y rapporte pas, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est précisé que le Christ va descendre, il descendra du ciel, que les morts en Christ ressusciteront avec les saints qui sont restés vivants, et, je cite, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, le Christ descend du ciel, les chrétiens, ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont encore vivants en Christ, ils vont quitter la terre à la rencontre du Christ qui descend. Il va revenir, comme j'ai dit, aussi à Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. Et comme c'est marqué dans Zacharie 14, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Actes chapitre 1 et le verset 9. Actes chapitre 1 et le verset 9, il y a une écriture qui est intéressante dans ce contexte. Actes chapitre 1 et le verset 9. Le Christ vient de parler à ses apôtres et dans le verset 9, nous voyons la suite des événements. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Le Christ part pour s'asseoir à la droite de son Père. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, donc, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Viendra de la même manière. » Le verset 12 est intéressant. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Le Christ est parti de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et le Christ va revenir, il va poser ses pieds, comme nous venons de voir dans Zacharie, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Donc nous voyons très clairement d'après la Bible que le Christ revient du ciel et que les saints vont monter à partir de la terre pour rencontrer le Christ dans les airs. Revenons maintenant à Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, il est question de la maison de mon Père. La maison, c'est l'expression, la maison de mon Père, nous ne le trouvons que deux fois dans le Nouveau Testament, enfin, tout au moins deux fois lorsque le mot Père est écrit avec un P majuscule. Nous le trouvons effectivement, cette expression, lorsqu'il s'agit de Lazare et le mauvais riche, où le mauvais riche parle, et je cite, de la maison de mon Père. La maison de mon Père, mais là, il y a un minuscule, parce qu'effectivement, il s'agit de sa famille, son père physique. Tandis que les deux citations que je vais vous donner, où il est question de majuscule, c'est le Père de Jésus, du Christ, c'est Dieu le Père. C'est pour ça qu'il y a un majuscule. Et donc, il y a que deux fois que cette expression avec un majuscule est utilisée dans le Nouveau Testament. Le premier contexte se trouve dans Jean chapitre 2 et le verset 15. Jean chapitre 2 et le verset 15. C'est la première Pâque du ministère du Christ. Jean chapitre 2 et le verset 15. Donc, le contexte, c'est la première Pâque du ministère du Christ. Et nous sommes familiers, c'est quand il a chassé les vendeurs et les changeurs de monnaie du temple. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père, P majuscule, une maison de trafic. » Personne ne pouvait mal comprendre ce que le Christ a dit ici. C'était très évident qu'il se référait au temple. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison me dévore. C'est une citation, justement, de Psaume 69, qui est un psaume messianique. Et les disciples du Christ ont compris que ce passage de Psaume 69 s'appliquait au Christ après qu'il a chassé les vendeurs et les échangeurs du temple. Dans ma Bible, du reste, à côté de l'expression « le zèle de ta maison me dévore », qui indique très clairement qu'il s'agit d'une référence dans Psaume 69, verset 10. Psaume 69 et le verset 10, il donne donc la référence. Revenons maintenant à Jean chapitre 14. Les disciples avaient déjà entendu ce que nous venons de voir dans Jean chapitre 2. Le Christ avait déjà utilisé cette phrase pour désigner un lieu, un endroit précis, le temple. Le mot « demeure » dans Jean 14, 2, en grec, c'est « mon », M-O-N-E, « loueur » donne comme définition une demeure, un constant, une habitation ou un domicile, entre autres. Et dans notre brochure sur l'Apocalypse, nous disons ceci. Le mot original grec, traduit en français par « demeure », « mon », signifie « habitation »,« demeure », »,« lieu de résidence permanente » ou « domicile ». Du reste, nous trouvons le même mot Un peu plus loin dans le même chapitre, dans le verset 23, où il est question du Saint-Esprit, et le Christ dit, nous viendrons à lui et son Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ceci dit, y avait-il des demeures dans le temple de Dieu? La réponse, c'est oui. Il y avait des demeures dans le temple. Et nous voyons dans Jérémie chapitre 35, le verset 2, nous voyons un passage où il est très très clair qu'il y en avait. Dans Jérémie chapitre 35, et le verset 2, je saute au milieu d'un contexte, « Va à la maison des Récabites et parle-leur, tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, la maison de l'Éternel, dans une des chambres. » Donc, il y avait des chambres dans la maison de l'Éternel. « Et tu leur offriras du vin à boire. » Un peu plus loin dans le verset 4, il y a une précision qui est donnée. « Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessous de la chambre de Maaseja, fils de Shalom, garde du seuil. » Deux choses que nous pouvons constater dans ce verset, c'est qu'il y avait visiblement différentes chambres pour différentes personnes, pour différents rangs, et aussi c'est marqué au-dessous, c'est-à-dire qu'il y avait au moins deux étages avec ces chambres. Et puis à la fin du verset 4, c'est marqué garde du seuil, c'était l'entrée de la maison. C'était l'entrée de la maison. Le second 21 parle de la garde de l'entrée. La garde de l'entrée, il fallait bien sûr gérer tout ce qui se passait dans le temple. Et le temple de Salomon, qui est mentionné ici, a été brûlé par les Babyloniens. Vous trouvez ça dans Jérémie chapitre 52. Jérémie 52, le verset 13. Les Babylons l'ont brûlé. Et par la suite, des années et des années après, il y avait le temple de ce qu'on appelle le temple de Zorobabel qui était construit. Alors la question se pose, puisque le temple de Salomon n'existait pas à l'époque du Christ, est-ce qu'il y avait des chambres dans le temple de Zorobabel? Il faut savoir que le temple de Zorobabel a été embelli et agrandi par Hérode. Et c'est ce temple qui existait à l'époque du Christ, quoiqu'il n'était pas entièrement terminé. Mais revenons au temple de base, si je puis dire, le temple de Zorobabel. Les Juifs sont revenus de la captivité, de leur captivité, captivité par les Babyloniens, et nous trouvons le nom de Zorobabel dans Esdras chapitre 3. Nous allons commencer à lire à partir du verset 2. Esdras chapitre 3. Et le verset 2. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent, bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes, selon ce qui est décrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'il eût sa crainte les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, donc on parle ici de la maison de Dieu, et au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs, les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité, à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Donc, de nouveau, il y a une maison de l'Éternel qui est construite. Mais à un moment donné, ils avaient à cœur de construire cette maison à Dieu. Zorobabel est décrit dans la Bible comme fils du gouverneur de Juda, même à un moment donné, gouverneur de Juda. Et nous voyons dans Esdras chapitre 6, un peu plus loin, dans Esdras chapitre 6, dans le verset 3, qu'il y avait même les dimensions de ce nouveau temple qui ont été données. Chapitre 6, c'est le verset 3. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Donc, des dimensions qui ont été données, des dimensions précises. Mais ce nouveau temple n'avait pas la magnificence du temple de Salomon. Chapitre, toujours Esdras, chapitre 8 et le verset 24. Chapitre 8 et le verset 24. Chapitre 8 parle de la préparation et du voyage d'Esdras à Jérusalem, entre autres. Verset 24. Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Sherebia, Hashabia et 10 de leurs frères. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Donc de nouveau, il est question de la maison de l'Éternel. Et ensuite, nous voyons dans le verset 29, on pose toujours la question, est-ce qu'il y avait de nouveau des chambres dans ce nouveau temple, temple de Zorobabel? Verset 29, soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'Éternel. Là, c'est spécifié en toutes lettres, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Nous trouvons également dans Néhémie, passage ou livre qui est en parallèle, si vous voulez, avec Esdras, mentionné à plusieurs reprises des chambres dans la maison de notre Dieu. Des chambres dans la maison de notre Dieu. Donc, de ce point de vue-là, point de vue des chambres, c'était le même format que le temple de Salomon. Il y avait, dans les deux cas, dans les deux temples, il y avait des chambres. Et ces chambres, comme nous avons vu tout à l'heure, étaient occupées en outre par des personnes qui avaient différentes responsabilités et différentes positions. Il est intéressant de remarquer à ce sujet que même le commentaire Adam Clark dit ceci à propos de Jean 14, « Notre Seigneur fait ici allusion au temple qui s'appelait la maison de Dieu, dans l'enceinte de laquelle se trouvait un grand nombre de chambres. Dans l'enceinte de laquelle se trouvait un grand nombre de chambres. » Revenons à Jean chapitre 14, la deuxième partie du verset 2, où c'est marqué « Je vais vous préparer une place. » Il y a deux écritures qui parlent de ce qui est préparé. Quand le Christ, dans Matthieu chapitre 25, quand c'est marqué « Lorsque le Fils » dans le verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Matthieu chapitre 25, toujours le verset 32. « Toutes les nations seront assemblées devant lui. » Verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Mais donc, il est question ici du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Du royaume qui a été préparé. Le Christ revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et un roi a un royaume. Le royaume de Dieu sera aussi administré par des saints qui vont être ressuscité. Et le Christ parle également de certains de ses serviteurs qui auront le gouvernement de 10 villes, d'autres qui auront le gouvernement de 5 villes. Et effectivement, nous qualifions dans cette vie pour des postes futurs, pour des responsabilités à l'avenir. Et dans ce contexte, nous voyons dans Psaume 65 et le verset 5, Psaume 65 et le verset 5, nous voyons ceci qui a à voir avec le plan de Dieu. Heureux celui que tu choisis et que tu as mis en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Notre souverain sacrificateur est actuellement au ciel. Il est notre roi et il détermine où chacun d'entre nous peut être utilisé dans son royaume. Selon, bien entendu, notre fidélité, nos talents qui ont été octroyés par Dieu, c'est ce que nous voyons aussi dans la parabole des mines, de nos capacités. C'est ce qui est marqué dans la parabole des mines, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Le Christ, donc, il prépare une place spécifique dans un domaine spécifique, en fonction, bien entendu, du caractère que nous avons développé. Hébreux chapitre 9 et le verset 15. Hébreux chapitre 9 et le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Cela comprend des responsabilités, des tâches spécifiques. Un héritage, c'est quelque chose qu'on lègue à ses enfants, que logiquement on prépare pour ses enfants, pas forcément sciemment, dans le cas d'un être humain. Mais en ce qui concerne notre Père Céleste, l'héritage éternel qu'il nous donne, qu'il nous donnera, c'est quelque chose qu'il a soigneusement préparé en fonction justement de nos talents, de nos capacités, de nos aptitudes et de notre croissance, bien sûr. Mais c'est un héritage éternel. La Bible parle aussi des trônes et de l'autorité. Le Christ a parlé des récompenses qu'il allait donner aux apôtres à l'avenir, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27. Matthieu chapitre 19 et le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Des trônes et de l'autorité. Les apôtres, comme les saints, vont revenir à la vie éternelle, seront des esprits plus sujets au vieillissement, aux blessures, aux maladies, à la mort. C'est un avenir qui défie l'imagination. Dans Luc chapitre 19, verset 15, la parabole des mines, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, Luc chapitre 19 et le verset 15. Il n'y a pas que les apôtres qui vont recevoir des positions, des postes, des responsabilités, Luc chapitre 19 et le verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » De la même façon que certaines personnes avaient des chambres dans le temple, en fonction de leur poste et de leur responsabilité, nous aussi, nous aurons des postes, des responsabilités en fonction de comment nous utilisons les talents que Dieu nous a donnés dans cette vie. Nous aurons ces responsabilités, ces postes, si nous avons été fidèles et si nous avons vaincu. Apocalypse 22, verset 12, précise, je ne m'y rapporte pas. Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le plus que nous vainquons dans cette vie présente, le plus que nous aurons une position honorable avec une plus grande responsabilité. Et le contexte, c'est l'éternité. Quelque chose qui, sur un plan humain, défie l'imagination. Il y a une autre écriture qui parle de ce qui est préparé et qui se trouve dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. On va lire à partir du verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » La nouvelle Jérusalem, donc, qui va descendre. Ceci a lieu après le millénium. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous allons regarder, si vous voulez bien, un passage parallèle dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 20. Verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, et puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Ensuite, donc, lors de son événement, le deuxième événement du Christ, le retour du Christ, et puis le verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura que des esprits. Verset 27, toujours en Corinthiens chapitre 15 et le verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. L'avenir après le millénaire. Une unisson, une harmonie complète, quand Dieu le Père habitera avec son peuple. Quand la mort ne sera plus. Dans le verset 2, nous avons lu, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et normalement, quand une épouse se prépare pour son mariage, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup d'anticipation et il y a beaucoup de réjouissance. Donc la nouvelle Jérusalem est préparée au ciel, descend du ciel, et le Christ va revenir d'abord en tant que roi, et le Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, et le Christ va attribuer des postes, des responsabilités à ses fidèles serviteurs. Ce n'est pas les saints qui vont au ciel. Mais il fallait que le Christ aille retrouver son Père comme il a dit. Il fallait qu'il aille trouver son Père pour que le Consolateur puisse être envoyé. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est le moyen, le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est le moyen par lequel nous pouvons entrer au royaume. Si nous avons le Saint-Esprit, Dieu, comme c'est marqué, Dieu rendra la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous, comme c'est précisé dans Romains chapitre 8. Et si nous regardons un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 21, le verset 22, on voit qu'il n'y a plus de temple, il n'y aura plus de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Mais pourquoi le Christ a donné cette assurance, a donné cette promesse? Il faut comprendre le contexte. À deux reprises, à deux endroits, les disciples étaient profondément attristés parce que le Christ parlait de sa mort. Il a dit que l'un de vous me livrera. Le Christ a insisté, mais vous ne m'avez pas toujours. Il a aussi dit, la lumière est encore pour un peu de temps, au milieu de vous. Et il a aussi dit, je m'en vais au Père, à plusieurs reprises, sous une forme ou une autre. Il allait encore leur dire, le Christ allait encore leur dire, sur la montagne des Oliviers, alors Jésus le dit, je cite Matthieu chapitre 26, verset 31, alors Jésus le dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc les disciples étaient très conscients que le maître ne sera plus avec eux. Et juste avant de leur parler, de préparer, comme quoi il allait leur préparer une place, il a dit que Pierre allait le renier trois fois. Les disciples, les apôtres, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils étaient inquiets, ils étaient très inquiets. Et donc, le Christ voulait les rassurer, il voulait les conforter et il voulait les encourager. Son esprit était bien sûr sur le plan de Dieu et sur son accomplissement personnel dans ce plan, mais son esprit était aussi sur ses disciples et sur leur avenir, malgré l'épreuve qu'il allait subir en très peu de temps. Le Christ leur a donné une promesse qui concernait leur avenir personnel, tout comme ça concerne notre avenir personnel. Il y a très peu dans la Bible, très peu de détails à propos de ce que les hommes de Dieu vont faire dans le millénium. Mais j'ai voulu regarder quand même quelques versets et extraire un certain nombre de principes. Et nous allons commencer avec David, dans Ézéchiel chapitre 34, il est précisé que Dieu lui-même va intervenir pour prendre soin de ses brebis. Il va prendre soin avec amour, l'amour de Dieu. Et nous pouvons aussi regarder ce qui est dit au sujet de David. Nous savons que David était un berger quand il était jeune. Il était même un très bon berger. Il risquait sa vie pour ses brebis. Vous vous rappelez quand il allait se battre contre Goliath? Il a dit à Saul qu'il faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ce récit nous est donné dans 1 Samuel chapitre 17. Donc il risquait sa vie, il avait à cœur le bien-être de ses brebis. Et Dieu l'a nommé roi pour paître son peuple d'Israël. Ézéchiel 34 et le verset 23. À l'avenir donc, j'établirai sur elle un seul pasteur qui la fera paître. Mon serviteur David, c'est toujours cette notion de paître le troupeau. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Un prince, mais aussi un berger. Dieu a pu utiliser les aptitudes de David, les aptitudes naturelles en tant que berger, un très très bon berger. Il a pu les utiliser pour paître son peuple d'Israël à l'époque, et il va utiliser de nouveau ces mêmes aptitudes pour paître son peuple à l'avenir. Donc, Dieu agit en fonction aussi de nos aptitudes, de nos possibilités, de nos points forts. Mais il y avait un autre élément dans la vie de David, un élément prédominant, comme nous voyons dans Actes chapitre 13, le verset 22, Actes 13, 22, « J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur. » C'est Dieu lui-même qui parle. « Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et un berger qui est converti va automatiquement faire un excellent travail. C'est le même principe pour nous. Si nous sommes convertis, si nous avons en plus certaines dispositions, certaines aptitudes, Dieu va nous donner des responsabilités, un poste dans son royaume. Matthieu chapitre 10 et le verset 5. Ce sont des instructions que le Christ a données aux apôtres. Matthieu chapitre 10 et le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était leur mission, c'était leur directive donnée par le Christ lui-même. Et quand vous prêchez donc à Israël, les brebis perdus d'Israël, quand vous prêchez à un peuple, vous apprenez à les connaître à fond. Et parfois, vous pouvez vous identifier avec le même peuple, surtout si c'est votre propre peuple. Vous connaissez leur faiblesse, vous connaissez leur force, vous connaissez leur talent, leur goût et leur capacité. Et si vous prêchez, vous pouvez peaufiner vos messages en conséquence pour pouvoir les aider davantage, pour pouvoir les aider beaucoup plus. Matthieu chapitre 19 et le verset 28, nous avons déjà lu, on va juste revenir de Matthieu chapitre 19 et le verset 28. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez qui? Les 12 tribus d'Israël. Tout à l'heure, on a vu que les apôtres étaient envoyés aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et voici que nous voyons qu'ils vont pouvoir juger les 12 tribus d'Israël. Lors de leur vie physique, ils avaient déjà emmagasiné une grande expérience avec le peuple d'Israël. Et Dieu va pouvoir se servir de cette expérience à l'avenir dans le royaume. Et bien sûr, les apôtres étaient convertis, très convertis. Et Dieu va pouvoir se servir de nos expériences dans cette vie physique. que nous connaissons maintenant. Nous, la Bible précise, et nous sommes familiers avec le passage, dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 10. Apocalypse chapitre 5 et le verset 10. Mais commençons avec le verset 9, parce que ça nous donne une perspective sur l'avenir, une perspective sur les saints que Dieu appelle maintenant. Et il chantait un cantique nouveau, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Dieu ne fait pas exception de personne. Verset 10. Et je lis ceci dans le Martin, et aussi l'Astevat dit la même chose, le Martin et l'Astevat. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Ça va être aussi notre travail à l'avenir quand nous serons dans le royaume. Un roi a de l'autorité, un roi a des responsabilités aussi, mais il a de l'autorité. Comme c'est marqué, comme nous avons déjà vu tout à l'heure, à propos de parabole des mines, reçoit le gouvernement de 10 villes, où le Darby dit « et autorité sur 10 villes ». Et autorité sur 10 villes. Il administre. Et quelqu'un qui reçoit le gouvernement de 10 villes, dans le millénium, va administrer à la façon de Dieu, avec les lois de Dieu, avec les normes de Dieu. Et puis c'est marqué aussi, en plus d'être des rois, il parle d'être des sacrificateurs. J'ai voulu vous lire un passage dans Ézéchiel chapitre 22 et le verset 26. Ézéchiel chapitre 22 et le verset 26. Ça nous donne un certain nombre de détails à propos du travail de sacrificateur, de ce qui devait être le travail de sacrificateur. Ézéchiel chapitre 22 et le verset 26. C'est un reproche ici de la part de Dieu, mais ça nous permet de voir ce que les sacrificateurs devraient faire, vont faire à l'avenir, et que nous allons faire, puisque nous serons des rois des sacrificateurs. Verset 26, « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. » Les sacrificateurs à l'époque n'enseignaient pas, ne soulignez pas ce qui était saint et ce qui était profane. Nous qui observons maintenant la loi de Dieu, nous allons pouvoir l'enseigner à l'avenir pour le plus grand bien. Nous allons enseigner ce qui est saint pour Dieu. Nous allons enseigner ce qui est saint, le sabbat, les fêtes, les saintes convocations, le nom de Dieu et la dîme. J'ai voulu terminer avec Luc chapitre 12 et le verset 32. Luc chapitre 12 et le verset 32. Nous lisons ceci. Je nous rassure ici parce que nous avons un avenir fantastique. Verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Juste avant ce verset, le Christ a dit à maintes reprises de ne pas s'inquiéter. Et notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Le Christ a dit qu'il allait nous préparer une place même. Jean 14, verset 2, est une prophétie qui est aussi encourageante en ce qui nous concerne. Et cette prophétie devrait nous aider de notre côté à nous préparer pour cette place que Dieu veut nous donner. Dieu nous donne des promesses de protection, des promesses de ne pas nous abandonner et la promesse de nous préparer une place. Cette place que Dieu veut nous donner.